Bienvenue à tous. Il est 7h00 en temps universel. Nanit Talani en direct de Washington pour vous présenter le monde aujourd'hui. À la une de l'actualité, retour de la Guinée dans la francophonie. La suspension de Conakry a été levée avant le sommet en France. Pas de solution militaire à la crise soudanaise, affirme Moussa Faki Mahamat qui exige un cessez-le-feu. L'Égypte livre des armes à la Somalie, l'Éthiopie en alerte. Les leaders africains soulignent l'impact des conflits sur le développement durable lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Et puis l'artiste Nyomba Malafi dénonce les conditions inhumaines des détenus de la prison de Makala à Kinshasa. Ce sera dans la seconde partie. En économie, l'OPEP rejette l'idée de sortir des énergies fossiles. Ce sera juste avant le sport, mais tout d'abord le journal. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a annoncé hier mardi avoir décidé de lever la suspension de la Guinée qui pourra participer à son 19e sommet début octobre en France. Les détails avec Michel Joseph.
Le Conseil permanent de la francophonie a décidé d'exprimer sa solidarité avec ce pays membre en levant totalement sa suspension prononcée en 2021, a fait savoir l'OIF dans un communiqué. Toutefois, l'organisation a relevé la nécessité pour la Guinée de poursuivre ses efforts pour le volet des droits et des libertés. La Guinée avait été suspendue de l'OIF après le coup d'État qui avait été perpétré, indiquant que le renversement des institutions élues constitue une rupture de la démocratie et de l'ordre constitutionnel, selon la décision alors prise par l'organisation. Trois pays sahéliens, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, restent suspendus des instances de la francophonie. Ils ne participeront pas au sommet. L'OIF compte 88 États et gouvernements membres, dont 81 avaient confirmé mi-septembre la présence de délégations, dont 51 au niveau des chefs d'État et de gouvernement. L'OIF, qui a pour mission de promouvoir la langue française, la paix, la démocratie et les droits de l'homme, appuyer l'éducation et développer la coopération économique, estime le nombre de locuteurs français à 321 millions sur les 5 continents, ce qui en fait la 5e langue la plus parlée au monde.
L'Union africaine a appelé hier mardi à la cessation immédiate des combats dans la ville soudanaise d'El Fasher, dans le sud-ouest du pays. L'organisation dénonce une escalade de la crise après un assaut ce week-end des forces paramilitaires. Les détails avec Eric Manirakiza.
Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, appelle à une cessation immédiate des combats à l'intérieur et à l'extérieur d'El Fasher, affirme un communiqué. Moussa Faki Mahamat condamne fermement l'escalade actuelle de la crise et la propagation de la violence dans la ville. Il fait plus généralement part de sa préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire dans toutes les provinces du Soudan. Selon M. Faki Mahamat, il ne peut y avoir de solution militaire à la crise au Soudan et les combats ne font que prolonger les souffrances du peuple soudanais. Les paramilitaires ont lancé ce week-end une offensive à large échelle après des mois de siège. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'était dit gravement préoccupé, enjoignant le général Daglo à agir de manière responsable et à immédiatement donner l'ordre de stopper l'attaque. Selon l'OMS, au moins 20 000 personnes sont mortes depuis le début du conflit, tandis que l'émissaire américain pour le Soudan, Tom Perriero, parle de 150 000 victimes. Plus de 10 millions de personnes ont aussi été déplacées par les combats ou contraintes de se réfugier à l'étranger, soit un Soudanais sur cinq.
L'Éthiopie a fait part mardi de ses inquiétudes sur les armes fournies à la Somalie. Addis Abeba craint que ces armes ne se retrouvent entre les mains de terroristes. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Cette déclaration a été faite un jour après qu'un navire de guerre égyptien a déchargé des armes lourdes à Mogadiscio. L'Égypte et la Somalie se sont rapprochés cette année en raison de leur méfiance commune à l'égard de l'Éthiopie. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Taye Atske Selassie, a déclaré qu'il craignait que la fourniture de munitions par des forces extérieures n'exacerbe encore la fragilité de la sécurité et ne finisse entre les mains de terroristes en Somalie, a rapporté l'agence de presse éthiopienne. L'Éthiopie, dont des milliers de soldats sont stationnés en Somalie voisine, pour lutter contre les islamistes Shebab s'est brouillé avec le gouvernement de Mogadiscio au sujet de son projet de construction d'un port dans la région sécessionniste du Somaliland. La semaine dernière, la Somalie a accusé l'Éthiopie d'expédier des armes à l'État semi-autonome du Puntland. La Somalie a menacé d'expulser les troupes éthiopiennes d'ici la fin de l'année si l'accord portuaire n'était pas annulé.
Amnesty International a rassemblé 12 000 signatures pour demander l'établissement d'une commission d'enquête judiciaire au Kenya face à l'usage illégal de la force policière lors des manifestations meurtrières de juin, annonce ce mercredi l'ONG. Cette démarche intervient trois mois après que ces rassemblements antigouvernementaux de la jeunesse d'une ampleur inédite et au départ pacifique ont pris un tour violent le 25 juin lorsque des manifestants ont pénétré dans l'enceinte du Parlement. La police avait alors tiré à balles réelles. D'après le communiqué d'Amnesty International, au moins 6 personnes sont décédées et des centaines ont été blessées ce jour-là par la réaction non nécessaire et excessive de la police. La justice malienne a ouvert hier à Bamako le procès d'anciens ministres et officiers pour détournement lié à l'achat d'un avion présidentiel et d'équipements militaires en 2014 sous le régime de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta. Cet achat, estimé à près de 40 millions de dollars et effectué sans appel d'offres, avait entraîné des sanctions financières contre le Mali. L'ex-premier ministre Souleymane Boubey Maïga et l'ex-ministre des Finances Boiré Fili Sissoko, tous deux placés en détention en 2021, sont accusés d'atteinte aux biens publics, escroquerie, faux et favoritisme. M. Maïga est décédé en prison en mars 2023, tandis que d'autres anciens responsables sont également jugés cette semaine.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plusieurs chefs d'État africains étaient à la tribune de l'ONU hier mardi à l'occasion du débat général de la 79e Assemblée générale des Nations unies. Ils ont appelé à une réforme du Conseil de sécurité. Alexandrine Holognon est à New York pour VOA Afrique.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a condamné la violence actuelle à Gaza et souligné l'impact dévastateur du conflit, notant que plus de 41 000 Palestiniens ont été tués et que des infrastructures essentielles ont été détruites. Il a appelé à une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies et demande à l'ONU de travailler pour mettre fin aux souffrances des Palestiniens.
Par l'intermédiaire des Nations Unies et des instruments qu'elle utilise, nous devons mettre fin aux souffrances que subissent les Palestiniens. Nous sommes appelés à défendre les principes de la Charte des Nations Unies et à faire respecter, de manière cohérente et dans leur intégralité, les principes fondamentaux du droit international. Le droit international ne peut être appliqué de manière sélective. Aucun État n'est plus égal qu'un autre.
Le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Razouani, a abondé dans le même sens en condamnant la guerre menée par Israël contre le peuple palestinien. Selon El Razouani, la situation internationale actuelle a un impact des plus négatifs sur les efforts de développement durable, en particulier pour l'Afrique. Le vice-président du Nigeria a aussi appelé à une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, qui pour lui est essentielle si les Nations Unies veulent renforcer leur pertinence et leur crédibilité dans un monde en mutation rapide. Le débat général se poursuit aujourd'hui. Sont attendus parmi les délégations africaines les représentants du Ghana, de la RDC, de la Libye, du Libéria, de la Guinée-Bissau, de la Namibie, du Botswana, du Cap-Vert, du Sénégal, du Togo, du Tchad et du Zimbabwe. Alexandrine Hololion, New York, VOA Afrique.
La Chine a testé ce mercredi dans le Pacifique un missile balistique intercontinental équipé d'une ogive factice d'entraînement, a annoncé son ministère de la Défense. Les missiles balistiques intercontinentaux font partie des armes les plus puissantes au monde et peuvent transporter des charges nucléaires dévastatrices. Aucun détail sur le lieu de la chute du missile n'a été apporté. C'était tout pour les nouvelles. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'Ouganda obtient des fonds de l'Irlande pour des réfugiés. Joe Biden annonce 1 million de doses de vaccins anti-mpox pour l'Afrique. L'OPEP rejette l'idée de sortir des énergies fossiles. Voici notre segment économique, les précisions de Michel Joseph.
Le gouvernement irlandais a octroyé près de 20 millions de dollars au Programme alimentaire mondial de renforcer les projets d'autosuffisance des réfugiés et améliorer leur protection sociale. L'Ouganda accueille le plus grand nombre de réfugiés et demandeurs d'asile en Afrique, avec 1,7 million de personnes, selon le HCR. Les États-Unis vont fournir 1 million de doses de vaccins anti-mpox à des pays du continent africain, a annoncé mardi le président Joe Biden à la tribune de l'ONU à New York. La recrudescence du mpox sur le continent a poussé l'Organisation mondiale de la santé à déclencher mi-août son plus haut degré d'alerte mondiale. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole a décrit mardi la sortie des énergies fossiles comme un fantasme, le cartel estimant que la demande en or noir continuera à croître au moins jusqu'en 2050. L'an dernier, à la COP28 à Dubaï, le monde s'est accordé pour abandonner progressivement les énergies fossiles et, d'ici 2030, tripler la capacité des renouvelables afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050.
L'Égyptien Dizo ambitionne de remporter la Supercoupe avec le Zamalek, tandis que Marseille se positionne pour accueillir la finale de la Ligue des Champions 2027 en boxe. Daniel Dubois se prépare pour une revanche potentielle contre Joshua Usyk. Voici les nouvelles sportives avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
L'Égyptien Dizo veut gagner la Ligue des Champions avec le Zamalek.
Dans une interview accordée à CAFonline.com, Ahmed Mostafa Saed, surnommé Zizo, a déclaré que le match de la Supercoupe entre le Zamalek et son rival historique Al Ahly ce vendredi à la Kingdom Arena de Riyad en Arabie Saoudite sera particulièrement intense. Il dit vouloir remporter cette deuxième Supercoupe et dit compter sur l'enthousiasme des supporters pour offrir une grande motivation aux joueurs. Selon lui, les fans du Zamalek attendent avec impatience ce titre. Depuis son arrivée en 2019 au Zamalek, il affirme avoir eu la chance de contribuer à plusieurs succès du club et vouloir continuer à enrichir le palmarès de cette formation égyptienne.
Marseille candidate pour accueillir la finale de la Ligue des Champions 2027.
La ville de Marseille s'est proposée d'accueillir la finale de la Ligue des Champions 2027 après la décision de l'UEFA de retirer ce match au stade San Siro de Milan en raison de travaux programmés. L'UEFA avait annoncé que San Siro, où évoluent habituellement l'AC Milan et l'Inter Milan, avait perdu l'organisation de la finale de la Ligue des Champions 2027 car la ville de Milan ne pouvait pas garantir que le terrain et la zone environnante ne seraient pas affectés par les travaux de rénovation. Au début du mois, l'AC Milan et l'Inter Milan ont rejeté un projet de modernisation et de restructuration du stade emblématique présenté par la municipalité de Milan et ont commencé à prospecter des terrains autour de la ville pour ériger chacun sa nouvelle enceinte.
Pour terminer, Yacouba en boxe, Daniel Dubois combattra celui qui payera le mieux entre Usyk et Joshua.
L'Anglais, qui a conservé son titre IBF des poids lourds contre Anthony Joshua, adorerait une revanche contre Joshua ou Alexander Usyk. Selon celui qui le paierait le plus, a-t-il déclaré. Samedi, le Londonien de 27 ans a fait forte impression en conservant de belle manière son titre de champion du monde IBF des poids lourds en mettant brutalement KO Anthony Joshua, 34 ans, au 5e round à Wembley, après l'avoir fait tomber 4 fois au total. À la suite de sa défaite, Joshua a insisté sur le fait que sa carrière était loin d'être terminée et qu'une revanche potentielle contre Dubois ainsi qu'un autre affrontement contre Tyson Fury étaient des options possibles pour les combats à venir. Dubois a déjà été battu par l'Ukrainien Usyk en août 2023 dans cette catégorie des poids lourds. Le combat principal en cette fin d'année sera celui entre Alexander Usyk et Tyson Fury pour une revanche le 21 décembre pour les ceintures WBA, WBO et WBC.
«
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, de retour pour vous présenter les dossiers du jour. Le Parti démocratique sénégalais PDS, parti de l'ancien président Abdoulaye Wade et celui de son successeur, l'Alliance pour la République APR de Macky Sall, ont formé une coalition pour les législatives anticipées du 17 novembre au Sénégal. Les deux partis sont désormais réunis au sein de l'Alliance pour la transparence électorale, ATEL. Lors de la dernière présidentielle, le PDS avait soutenu Bassirou Diomaye Faye, qui a été élu. Le président Faye a dissous le Parlement le 12 septembre dernier et a annoncé des élections législatives anticipées pour novembre. Joint à Dakar au Sénégal par Yacouba Ouédraogo, l'analyste politique Abdoulaye Mbo estime que cette coalition est difficile à comprendre.
Il a totalement persécuté le Parti démocratique sénégalais dès son accession à la magistrature suprême en 2012, avec véritablement la relance de la cour de répression de l'enrichissement illicite. Et la seule personne qui a été condamnée parmi les 25 personnalités citées, ce n'était autre que Kari Wade, qui a été condamné, qui a été ensuite gracié, puis exilé du pays. Depuis lors, il n'est plus revenu au Sénégal. Le président Macky Sall a également mis en prison beaucoup de dignitaires du Parti démocratique sénégalais. Énormément, une cinquantaine même de dignitaires et de militants. Donc, durant tout le long de son mandat, en réalité, il n'a travaillé qu'à affaiblir le Parti démocratique sénégalais. Donc, aujourd'hui, si ces deux formations politiques se retrouvent, en réalité, c'est véritablement mettre à côté tout ce qui peut être considéré comme éthique politique et déontologie politique. Et mieux encore, le Parti démocratique sénégalais, il y a 6 mois, avait soutenu la candidature de M. Diomaye Faye.
Justement, qu'est-ce qui justifie que le PDS qui avait soutenu Bassirou Diomaye Faye lors de la présidentielle se retire maintenant?
C'est la question que tout le monde se pose. C'est juste des questions de positionnement, de survie politique. Quoi faire et comment faire et dans quelle mesure le faire pour véritablement aller dans le sens tout simplement de pouvoir avoir des représentants à l'Assemblée nationale. Je crois bien que le Parti démocratique sénégalais pouvait aller chercher d'autres alliances autres que l'Alliance pour la République, et notamment se donner toutes les chances, en tout cas d'avoir une certaine représentativité au niveau de la prochaine législature. Mais malheureusement, chez nous, la politique se fait pratiquement sans déontologie et sans éthique. Et les Sénégalais devront, à mon avis, bien lire cette nouvelle alliance qui est considérée par certains éminents responsables du PDS comme notamment une infamie, une pure infamie politique.
Parlant de l'APR, on sait qu'il est peut-être un peu affaibli dans la mesure où l'ancien premier ministre de Macky Sall, Mamadou Ba, s'est retiré de cette APR-là. Que vaut justement cette coalition-là face au président Faye et au premier ministre Ousmane Sonko?
Un PDS affaibli, éliminé et solutionné. Une affaire également qui connaît le même destin politique avec le départ d'Amadou Ba et de plusieurs autres responsables. Donc, de ce point de vue-là, on comprend également que l'alliance est née, mais du point de vue de la représentativité, ce sont deux formations politiques qui ont énormément perdu le terrain et qui vont aller également dans le sens de connaître beaucoup de votes sanctions de la part de leurs militants. Ce serait une surprise qu'ils puissent notamment faire basculer les voix face au président Bassirou Diomaye Faye et son parti Le Pastef ou sa coalition.
C'était l'analyste politique Abdoulaye Mbo, joint à Dakar au Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
En République démocratique du Congo, l'artiste Niamba Malafi a dénoncé dans un spectacle un système carcéral qui enterre vivant ses condamnés. La prison de Makala à Kinshasa est notoirement surpeuplée, hébergeant 10 fois plus de détenus que sa capacité, d'après les statistiques officielles. Plus de détails avec Blanche Sanou.
La lourde croix en bois sur les épaules de l'artiste Niamba Malafi symbolise le poids du calvaire des détenus dans la plus grande prison de Makala. Le Congolais de 28 ans est sorti de la prison de Makala en août dernier. Condamné pour avoir défendu publiquement un groupe de danseurs emprisonnés pour atteinte à la pudeur, il a reçu la même peine d'un mois d'incarcération. Il en est ressorti avec une rage qu'il retranscrit dans un spectacle intitulé « Mort en exercice ».
Pour moi, c'est un choc parce que on peut le fait d'être arrêté parce que tu es un centre culturel, le fait d'être arrêté parce que tu veux défendre l'expression artistique, le fait d'être arrêté parce que tu étais allé tout simplement s'imprégner de la situation des artistes qui ont été arrêtés. Et voilà, aujourd'hui, j'en sors avec un spectacle où aujourd'hui, on vous présente un extrait de la performance qu'on intitule « Mort à l'exercice à Makala ». Moi, déjà, le fait d'entrer en prison, c'est mourir en pleine action, mourir dans ces conflits.
Le centre pénitentiaire fait régulièrement l'objet de condamnations des organisations de défense des droits qui qualifient d'inhumaines ces conditions de détention. Niamba Malafi se présente devant quelques dizaines de spectateurs d'une maison culturelle dans une banlieue de Kinshasa.
Il faudrait qu'il y ait une relation directe entre le ministère de la Justice et celui de la Culture pour faire appliquer toutes ces lois en faveur des artistes parce que nous sommes jusqu'à aujourd'hui les gardiens de la contribution de l'éducation de nos communautés.
Au cours du spectacle, l'artiste raconte ses nuits sans sommeil dans une cellule d'un peu plus de 2 mètres carrés partagée avec 6 co-détenus. Le manque d'hygiène, la promiscuité et la faim, Niamba Malafi s'en souvient. Il qualifie son séjour à Makala de traumatisme qu'il dit chercher à soigner avec son spectacle.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Après les 2 journées du sommet de l'avenir consacré aux grands défis de l'humanité pour les générations qui viennent, plus de 100 chefs d'État et de gouvernement vont se succéder à la tribune de l'ONU pendant toute la semaine, alors que les conflits font rage à travers la planète. Pour connaître les grandes priorités des États-Unis pour l'Afrique durant cette Assemblée générale des Nations Unies, Eric Manirakiza a joint à New York le porte-parole francophone du gouvernement américain, Juan William Schmonsies.
Premièrement, les États-Unis cherchent à promouvoir la paix et les réformes démocratiques dans la région. Deuxièmement, ils continuent à fournir une aide humanitaire à l'Afrique, à la fois par l'intermédiaire du système des Nations Unies et en dehors du système des Nations Unies. Et on cherche aussi à établir des liens créatifs avec des partenaires non gouvernementaux et aussi du secteur privé. Et troisième, les États-Unis cherchent à réformer en profondeur les institutions multilatérales afin de promouvoir une plus grande inclusion et une plus grande efficacité.
Monsieur Schmonsies, quelles sont les grandes priorités des États-Unis pour l'Afrique durant cette Assemblée générale des Nations Unies et comment ces priorités se traduisent-elles en actions concrètes sur le terrain?
La stratégie des États-Unis envers l'Afrique reste sur la reconnaissance que l'Afrique subsaharienne est une force géopolitique majeure. Notre approche reconnaît que nous ne pourrons réaliser aucune de nos priorités communes si nous ne travaillons pas ensemble en tant que partenaires égaux. Et c'est pourquoi, lors de cette Assemblée générale, nous luttons pour créer un Conseil de sécurité plus inclusif et plus efficace, notamment élargi avec 2 sièges permanents pour les pays africains.
Comment le gouvernement américain perçoit-il l'avenir du partenariat avec l'Afrique et quelles décisions importantes à considérer lors de cette Assemblée pour renforcer cette collaboration?
Les États-Unis sont le principal pays donateur du système humanitaire de l'ONU et on s'engage à faire notre part pour que le système humanitaire soit à la hauteur des enjeux actuels. Grâce à des fonds supplémentaires, les États-Unis apportent leur contribution à un moment où les besoins sont extraordinaires. Et parallèlement, en même temps, nous sommes déterminés à œuvrer en faveur d'un système mondial plus efficace et plus souple, qui affecte davantage d'outils et de ressources et face de la coopération et du partage des charges une priorité, y compris avec des donateurs non traditionnels comme les ONG, le secteur privé, etc.
Au Soudan, quelles initiatives spécifiques les États-Unis mettent-ils en œuvre pour aider à mettre fin au conflit et ramener la stabilité dans la région?
Les États-Unis s'efforcent de mettre fin à la guerre civile au Soudan. Et ils ont organisé en ce sens des pourparlers en Suisse en août 2024 avec la Suisse, l'Arabie Saoudite et d'autres parties. En août, ils engagent continuellement les parties au conflit dans la recherche d'un cessez-le-feu.
C'était Juan William Schmonsies, porte-parole francophone du gouvernement américain.
C'est
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Tous les 4 ans, la course à la présidence des États-Unis se concentre sur les swing states. Contrairement à la plupart des États qui favorisent systématiquement un parti, ces champs de bataille peuvent basculer d'une élection à l'autre et déterminent souvent le vainqueur de la Maison Blanche. Étant donné que seuls quelques États sont généralement en jeu, les campagnes consacrent des ressources à ces régions cruciales. Leurs grands électeurs décident souvent de l'issue du scrutin, ce qui fait d'eux le centre d'une campagne intense. Il est essentiel de comprendre les swing states pour saisir comment l'Amérique choisit son président, élaborer des stratégies et potentiellement modifier le paysage politique du pays. Dilly Diko.
Les swing states, états pivots, sont essentiels pour remporter la Maison Blanche en 2024. Ces états sont le théâtre de campagnes politiques les plus féroces et les plus coûteuses, et leurs électeurs exercent une influence considérable sur l'élection. Alors, comment cela fonctionne ? La plupart des états sont de manière prévisible, rouge ou bleu, républicain ou démocrate, mais dans les swing states, le résultat peut aller dans un sens ou dans l'autre. Un candidat a besoin de 270 votes sur les 538 du collège électoral pour remporter la présidence, en général par le biais d'élections au niveau de l'État où le gagnant remporte la majorité des suffrages. Cette année, l'Arizona, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie et le Wisconsin détiennent les clés de la Maison Blanche. À travers eux, 93 votes du collège électoral pourraient passer soit au rouge, soit au bleu. Les marges électorales de ces États sont minces en raison d'une répartition quasi équilibrée entre les électeurs républicains et démocrates. Les changements démographiques et la divergence d'opinion entre les zones urbaines et rurales rendent ces résultats imprévisibles. Des changements, même minimes, peuvent faire basculer l'ensemble d'un État et donner à Kamala Harris ou à Donald Trump l'avantage au sein du collège électoral. En 2016, Donald Trump a remporté la Pennsylvanie avec une marge de 0,7%, s'assurant ainsi 20 votes du collège électoral et la présidence. 4 ans plus tard, Joe Biden a reconquis l'État avec une avance de 1,2%, ce qui l'a aidé à remporter la Maison Blanche. La même année, Joe Biden a remporté la Géorgie avec une faible avance de 12 000 voix, faisant basculer l'État du rouge au bleu pour la première fois depuis Bill Clinton. Les swing states sont imprévisibles, mais une chose est sûre, ils auront une influence considérable en 2024. Dans ces États, chaque vote compte.
Alexandre Lucroix, on y aura avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, plus de 130 chefs d'État et de gouvernement sont à New York pour la grande messe annuelle de l'ONU. C'est l'occasion pour les délégations des États africains de réclamer davantage de place pour le continent au sein des instances de l'organisation internationale. Les États-Unis ont récemment annoncé leur soutien à la création de 2 sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU pour des pays africains, mais sans droit de veto dans le cadre d'une réforme hypothétique de cet organe clé des Nations Unies. Pensez-vous que les Nations Unies devraient être réformées pour mieux respecter les réalités géopolitiques actuelles? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel dans Washington Forum sur VOA Afrique, voafrique.com, rediffusion samedi et dimanche.
C'est ici que nous concluons cette édition du Monde aujourd'hui. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez à l'écoute pour plus d'informations et d'analyses sur VOA Afrique. Au micro, Nanit Talani à la réalisation, Georges Léonard Sagno à la technique, Calvin Fowler. Au nom de toute l'équipe de la VOA, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.